Marcel Detienne, vous êtes l'auteur, entre autres, d'un très beau livre, célèbre aujourd'hui, Les Jardins d'Adonis. Vous analysez le mythe d'Adonis qui, condamné à l'impuissance, est voué à manger des laitues. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un peu cette thématique-là qui fascine Philippe Sellers ?
Oh, peut-être que Philippe Sellers aime les laitues. En fait, Adonis n'en mange pas, il meurt sous une laitue. Et les pythagoriciens, du fait de ce rapport avec la sexualité, se gardent bien d'une certaine façon de toucher à cette plante. Alors, oui, probablement que Philippe Sellers et l'Antiquité ou les beaux amants qui meurent ou disparaissent, c'est quelque chose qui va ensemble. C'est vrai que Philippe Sellers, c'est quelqu'un qui interroge avec passion, au fond, la mythologie. Et cette interrogation passionnée sur la mythologie, c'est quelque chose qui la rend, pour moi qui étudie dans des textes ou dans un certain nombre de récits, qui la rend à la fois insolite, étrange et extrêmement vivante. J'adore entendre Philippe Sellers s'interroger sur, au fond, ces récits, ce qui se passe, le sexe de Dionysos. Le rapport étrange et singulier qu'il y a entre Athéna et Ulysse, puisqu'il m'en a beaucoup parlé du temps ou avant où il écrivait comme cela les différents registres du cœur absolu. Il y avait là cette Odyssée qui revenait sans cesse, cette espèce d'interrogation sur que se passe-t-il entre eux, quelle est cette relation.
Comment vous êtes-vous historiquement rencontré? Enfin, c'est lui qui a fait le premier pas ou il vous a écrit?
Alors, c'est vrai que du temps de tel quel, avant l'infini, il y a eu de la part de Philippe, comme cela, des signes pour dire, voilà, l'art vieux est ouverte, si la Grèce aujourd'hui veut être dans le coup, écrivez. Et je me souviens que, oui, il y a eu, comme cela, à l'intérieur du petit groupe auquel j'appartenais, enfin, à ce moment-là, une sorte de délibération. Il y a des gens qui ont dit, ça peut être très bien, mais en même temps, Sellers, ça sent le soufre. Et l'hellénisme, est-ce qu'il a besoin, en plus, d'être souffré, alors que déjà, il souffre tellement. Bon, et alors, et pour finir, à la majorité, les gens, je laisse dans l'anonymat, donc on dit, non, si on fait des choses, on va le faire dans telle revue, enfin, on va pas saisir. Et alors, il y a eu cette espèce, comme cela, d'occasion manquée. Enfin, moi, ça m'est resté sur le cœur, effectivement, de ne pas. En même temps, je n'y ai pas été tout seul. Enfin, donc, et c'est un peu plus tard, alors qu'effectivement, j'ai vraiment rencontré Philippe Sellers.
Donc le soufre solercien a eu raison de vous.
c'est vrai que, par exemple, quand on a parlé ensemble de l'origine, enfin, des sciences religieuses, moi j'avais une vision plutôt un petit peu positiviste, c'est-à-dire que je militante, et je mettais l'accent sur la création de cet espace par, au fond, la République, les professeurs, tous ceux qui décident autour de Louis Liard, qui est un homme très important en 1870, au fond, il fallait absolument mettre le christianisme sous observation. Et le reste à côté, quoi. Mais il fallait commencer par le reste pour essayer d'atteindre le christianisme, qui n'est pas facile. Et puis, en parlant avec Sellers, en écoutant un peu ses questions, j'ai eu le sentiment qu'effectivement, c'était pas aussi net comme genre d'entreprise, et qu'il y avait toujours la question, effectivement, du statut de la religion, et pour finir, de ce que chacun apporte dans une entreprise comme celle-là, où on peut effectivement dessiner un plan, prévoir une série d'étapes, coloniser une partie de ce grand empire des religions, et qui reste des questions fondamentales qui ressurgissent ou qui prennent d'autres formes, et que, oui, l'analyse des sciences religieuses, ça passe aussi à travers, justement, le discours philosophique, le discours littéraire, et toutes ces choses qui, pour finir, ont été tenues à l'écart de ce lieu, et qui questionnent, par conséquent, très fort aussi, le statut même de ces disciplines. Donc ça m'intéresse, ce questionnement, puisque ça permet de mettre quelques bouillonnements en plus.
Philippe Sellers vous lit, et il vient vous voir.
Nous rencontrons comme ça, à gauche, à droite, et de temps en temps, effectivement, il vient, et alors on parle de tout. C'est vrai que ça l'intéresse beaucoup,
Il vous pose des questions, enfin.
Oui. Ce qu'il faut lire, ce que j'ai lu, ce qu'on a rencontré, ce qu'on a vu. Oui. Alors effectivement, c'est vrai. Par exemple, il y a maintenant un an, il y a eu comme ça le centenaire des sciences religieuses. Ah, mais ça l'a passionné parce qu'effectivement, c'est un ancien élève des jésuites, donc et moi aussi. Donc alors, nous avons une sorte de à la fois de distance et d'amour-haine commun. Et alors, le statut des sciences religieuses en France, enfin, c'est toute l'histoire intellectuelle et littéraire qui passe à travers. Enfin, ce sont des... Bah oui, parce qu'au fond, dans cette espèce de section-là, dite cinquième, et où on a défini une sorte d'espace profane, mais ambigu, pour analyser les phénomènes religieux, eh bien, sont passés des gens, qui s'appellent Dumézil, Marcel Granet, il y a Lévi-Strauss qui n'est pas si loin, puis d'autres, Massignon, Corbin, enfin, c'est toute une série comme ça de gens qui, pour finir, sont à la fois d'éminents savants représentants de leur discipline, mais en même temps qui ont toutes sortes d'autres relations, des vies secrètes, des vies multiples, enfin. Et je crois ça m'intéresse beaucoup, ça, les vies multiples des gens.
Culture, le bon plaisir de Philippe Solers.
Un certain nombre de vos rencontres dans Le Cœur Absolu ou dans d'autres livres.
Peut-être comme ça, très comme ça, mais très transformé, peu, je pense, parce que Solers, c'est une grande pratique d'un grand nombre de gens, donc je ne sais pas comment il procède.
Marcel Détienne.
Mais c'est vrai que, par exemple, je travaille maintenant un livre sur Apollon, l'Apollon meurtrier, l'Apollon fou, et chaque fois que j'en ai parlé, j'ai vu dans son œil que c'était quelqu'un qui ou un sujet qui l'habitait, qui était un peu le sien. C'est bien un petit peu un personnage à lui, quoi.
Et ande que prosodion iston seon oepo essen kai prosekitsari sen limenios sinu aseneos. Ite pitilesco pontanse parnasian philochoron dicorifon clitin un non catartrete demon pierides e nifobolus petras ne est heliconidas mel petece pition chryseogetan hecaton evlira phibon on ecite lato macera paralimne clite Χερσίγλας κας ελέας τιβούς, όθον εν αγωνίες ερισαλή.
Qu'est-ce qui l'intéresse, croyez-vous, chez Dionysos ?
Ah, chez Dionysos, ce qui l'intéressait, c'est que c'est un opérateur prodigieux. Dionysos, c'est à la fois tout le Panthéon, c'est l'ensemble des passions humaines, c'est le rapport qu'il y a entre la folie, le meurtre. Un érotisme, pour finir, qui à la fois semble se séparer de la sexualité et qui en même temps lui donne des dimensions presque pathologiques. Alors Dionysos, c'est oui, C'est le grand vivant de ce monde de Dieu. Enfin, c'est lui qui l'anime, de cette façon. Il n'y est pas, il y entre difficilement, il y entre par toutes sortes d'astuces, mais il y est plus profondément qu'aucun autre. Alors donc, c'est bien le système même de, disons, mythologique qui trouve là sa pierre angulaire, enfin, en Dionysos. Alors, je crois que... Solaire aussi, je suppose que Dionysos fait travailler toute une série d'autres modèles littéraires. Il y a Dionysos avec Hölderlin, et puis il y a le Dionysos qui passe à travers, qui bouscule l'œuvre de Nietzsche, et puis comme ça, qui est cette espèce en attente de, d'autres interprétations, toujours.
Qu'est-ce qui intéresse dans ce personnage?
Ce serait plutôt lui de vous le dire, moi, parce que moi je l'ai fait, et puis il y a une espèce d'île des femmes où Dionysos est un règne en maître là sur les bords de l'Atlantique, et c'est vrai que je me suis amusé à essayer de reconstruire ça, puisqu'après tout, mon boulot, je suis payé pour quand même raconter des choses qui sont vérifiables, et que voilà, il y a tel texte, et que c'est tel philosophe passant à telle époque qui écrit une relation, donc c'est un peu comme ça que les choses prennent forme pour moi. Mais en même temps, c'est vrai que quand on reconstruit, quand on écrit ce genre de choses, on fait des choix, de plus en plus, donc, et ça m'a beaucoup plu de le faire... de le mettre là, en quelque sorte, sur une scène insulaire, où il est un dieu. D'abord, le climat, c'est un peu le suivant, c'est donc des femmes qui sont séparées de leur mari, qui vivent lors d'une sorte de couvent, autour d'un personnage très, au fond, bougon, irritable, il n'est jamais content du service... une fois par mois, elles vont faire l'amour sur le rivage, donc avec sur le rivage, c'est-à-dire elles retournent de l'autre côté, là, chez leur mari. Et puis, une fois par an, ce dieu-là, un matin, encore plus pénible que les autres, enfin, il exige que l'on refasse le toit de son sanctuaire. Alors, toutes s'empressent, parce qu'en même temps, la condition, c'est la suivante, c'est que ça doit être terminé avant le coucher du soleil. Alors, on s'agite, et puis en même temps, c'est des tuiles assez importantes, c'est lourd, enfin, il y a des échelles. Et il arrive, raconte toujours le philosophe ethnographe là, qui prétend avoir vu cette scène, il arrive qu'une des femmes laisse tomber sa charge. Alors, à ce moment-là, ça devient hallucinant. C'est-à-dire que toutes les femmes se précipitent, abandonnent le travail qui n'était qu'un prétexte, se précipitent sur la malheureuse qui est tombée, et puis la déchirent. La démembre vivante, comme ça, gémissante, et bon, on porte les morceaux en poussant du hurlement et en tournant autour de c'était un sanctuaire, ça devient une espèce d'idole de Dionysos. C'est Dionysos qui l'a fait tourner, virer, tourbillonner, et puis, brutalement, tout ça s'arrête. Et la vie triste et monotone recommence. Alors, donc, il y a là un concentré de Dionysos, et justement, agissant sur, pour finir, oui, c'est le dieu des passions par excellence, agissant sur ce corps, cette machine féminine qui est la plus sensible. Parce que c'est vrai qu'il y a, dans les Thias dionysiaques, il y a des hommes de temps en temps, enfin, mais ils se conduisent comme des femmes, enfin, ils miment les femmes. C'est le féminin qui est, pour finir, et l'élément le plus important pour Dionysos. Alors, entre ce dieu, cette machinerie, cette réflexion sur le féminin, et en même temps ce dieu qui, pour finir, se fait un de ses masques, c'est le phallos.
Comment réagit le Philippe Solers à la réception de ce livre, Dionysos?
Je pense qu'il connaît Dionysos de l'intérieur, donc il doit penser effectivement que c'est un portrait plus ou moins ressemblant, approximatif, que ça lui donnait quelques nouvelles d'un de ses masques, mais ce n'est certainement pas... Il n'y a rien de déconcertant pour lui. Enfin, je crois qu'il était déjà au courant et qu'il savait parfaitement comment ça se passait. Et en plus, ces histoires d'îles et de Dionysos insulaire, bon Dieu, rien de nouveau pour Solers.
Je trouve que c'est un homme de l'île.
Oui, mais c'est un insulaire qui aime beaucoup parcourir les continents. Mais enfin, en même temps, c'est vrai que il se construit comme ça, son île à lui. Et puis l'île est un bon endroit pour voir les autres et les choses, incontestablement. On voit mieux à partir de l'île.